Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce sixième épisode de Retour en force. Aujourd'hui, on a quand même plusieurs bonnes discussions qui s'en viennent. Tout d'abord, on va aborder le Super Bowl, puis après ça, on vous a préparé quand même plusieurs chroniques super intéressantes. Donc, sans plus tarder, j'accueille Thomas Lafond, Tristan Mac et Yoann Carrière. Comment ça va, les gars?
Bien.
Top shape, comme diraient nos amis anglophones. Salut mon Pierre-Luc, très content.
Ça va très bien, surtout que mon Tom Brady a remporté son septième Super Bowl.
Quelqu'un ici peut miser contre Tom Brady?
Ah, moi je l'ai fait.
une règle universelle, mon cher Thomas. Il ne faut jamais, jamais, au grand jamais, miser contre Tom Brady. Mais parlons-en, les gars, quand même, victoire à sens unique, là. 31-9, est-ce qu'on s'attendait à ça? Tristan, j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus.
Moi, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. À la base, ma prédiction était 31-24 en faveur des Buccaneers de Tampa Bay. Bon, j'ai eu raison
sur le
nombre de points pour les Bucs, mais j'ai pas eu raison pour le nombre de points du côté des Chiefs. Mais ce qui a complètement tué la partie du côté des Chiefs de Kansas City, c'est la ligne à l'attaque, combien elle a été médiocre, mais pas juste médiocre, parce que bon, il faut se le dire, là, Eric Fisher n'était pas là au niveau de la ligne de mêlée, puis Laurent Duvernay-Tardif n'était pas là. T'as deux des meilleurs gardes de la ligne à l'attaque des Chiefs de Kansas City qui étaient absents, et bon, du côté des Buccaneers, on s'est bien préparé, on a mis de la pression dès le départ, et il faut se le dire, là, les Chiefs de Kansas City n'ont pas été en mesure de marquer un seul touché en 60 minutes de jeu, messieurs.
C'est vraiment l'histoire du match, mais il y a aussi quelque chose qui a joué contre les Chiefs, bien, c'est le manque de discipline. Combien de pénalités qu'il y a eu en première mi-temps? Il y en a eu beaucoup, mais ça a clairement changé la donne du match. Donc, le mot d'ordre, reste discipliné, reste concentré, focus sur ton jeu, tout devrait bien aller. Yoann, t'en as pensé quoi de la performance des Chiefs?
Ben moi, c'est sûr que j'avais mis les Chiefs là, pour l'emporter. J'avais prédit une victoire de Kansas City, même si, bon, on dit qu'il ne faut pas miser contre Brady, blablabla. Moi, je m'attendais à ce que les Chiefs remportent. Ce que je n'avais pas pris en considération dans l'équation, par contre, Pat Mahomes n'était pas à 100%, il faut se le dire. Un orteil blessé pour un carrière comme lui, ça fait mal, mais surtout sa commotion cérébrale, on en a parlé là, à reprise vidéo la semaine dernière. Si ça avait été le début de la saison, Pat Mahomes n'aurait probablement pas joué ce match-là. Clairement, il n'était pas à 100%. Et moi, je l'ai malgré tout trouvé excellent dans ce match-là.
Oui. Ben oui.
Il a été incroyable. Le seul joueur vraiment qui a fait le travail de la ligne de l'offensive. Et la défensive des Bucs, ma foi, ce sont eux là, qui méritent le titre du MVP. Oui, Tom Brady était bon, mais sans la défensive, je veux dire, on avait un plan de match. À toujours avoir deux hommes sur Tyreek Hill, ça a fonctionné clairement. Pour le reste, ben, on a complètement menotté l'offensive des Chiefs. J'ai jamais vu quelque chose de similaire.
Puis c'est ça. 9 points au total, c'est 3 bottées de conversion. Donc, c'est pas la faute de Mahomes. C'est vraiment l'offensive. Il n'y avait absolument rien qui fonctionnait. Toi, Thomas, tu en as pensé quoi de cette rencontre-là?
Ben, honnêtement, j'ai été extrêmement surpris de la performance des Chiefs. Juste comme tu viens de dire, seulement 9 points, aucun touché, c'est quelque chose que je pense que j'avais pas vu depuis que Mahomes est là. Donc, j'ai été extrêmement surpris. Par contre, Mahomes est aucunement à blâmer. Je sais pas si tu as vu, mais au troisième ou au quatrième quart, il a fait des passes incroyables en tombant. Moi, j'en revenais pas. Là.
C'était incroyable. C'était quasiment un touché. Hein, si on parle de la même passe, là, en tombant, il l'envoie à l'autre bout. Bon, dommage, ils l'ont attrapé à l'extérieur, mais quand même tout un jeu.
Il y avait des passes, dont la passe qu'il a lancée en tombant, que les receveurs, c'est des passes comme ça qui t'arrivent dans les mains. Quand tu es dans la NFL, tu te dois d'attraper ces passes-là. Tu ne peux pas les échapper. C'est arrivé à deux moments, des gros jeux sur un deuxième ou un troisième.
Une fois proche du casque, là. Une fois proche du casque, je veux dire, à un moment donné, je ne veux pas me prétendre un grand connaisseur de football. Je n'ai jamais joué la game. Mais tabarouette, quand ton ballon arrive proche de la tête, il me semble que la position initiale, c'est de mettre le triangle de main dans les airs puis attrape le ballon, s'il vous plaît.
Ben, c'est ça.
Bon, moi, ça me dérange pas, les Bucs ont gagné, là, fait que ça me fait sauver de l'argent, mais quand même.
Ah oui, c'est ça. Mais parlons-en quand même, parce que toutes les odds étaient contre les Bucks. Je me souviens, sur Bet365, c'était de 2.5. Donc déjà, on ne les voyait pas gagnants. Mais le facteur qui a quand même fait la différence, eh bien, c'était la sagesse de Tom Brady. Puis on va se le dire.
Son leadership. Son leadership, PL. Je veux dire, aussitôt que tu as un gars qui est gagnant comme ça, un meneur, dans ton équipe, avec un Rob Gronkowski, les deux ensemble ont gagné une tonne de Super Bowl. Je veux dire, tu amènes ça avec un gars qui a de l'expérience comme Bruce Arians, ses lignes de côté, avec Steve. Non, lui, il est du côté des Chiefs, mais peu importe. Je veux dire, tu as une belle équipe du côté des Chiefs, des Buccaneers de Tampa Bay. Et la minute que tu as un gars comme Tom Brady dans ton vestiaire, ça rassemble l'équipe. Ben oui. Ça donne de la confiance. C'est ce qu'on a vu dès le départ de la partie. La défensive était là. L'offensive était là. Puis soulignons le parcours des Buccaneers de Tampa Bay, s'il vous plaît. On a battu de 1, Drew Brees. Puis de 2, en finale de conférence, on a battu Aaron Rodgers pour faire plaisir à Thomas. Puis mais en finale, on gagne contre Patrick Mahomes.
Puis ils ont battu tout ça. Ils ont battu Aaron Rodgers à Lambeau Field aussi, ce qui n'est pas rien en tant que tel. Thomas et moi sommes encore frus de ce match-là. Mais ça reste en effet un beau parcours. Et c'est comme tu le dis, c'est la présence là, de Tom Brady et de Rob Gronkowski. Parce que Brady n'a pas gagné ce match-là, même s'il a été nommé joueur par excellence. Il n'a pas gagné ce match-là avec son talent. Là.
Non, absolument pas, mais quand même, 21 passes réussies sur 29, c'est un de ses meilleurs taux d'efficacité en carrière. Il n'a pas lancé pour beaucoup, mais le jeu au sol des Bucks a été très efficace. Et en contrepartie, quand on regarde le parcours des Chiefs de Kansas City, on n'a jamais fait face à la aussi grande adversité que du côté des Buccaneers. De un, on a affronté les Browns de Cleveland, qui selon moi est un synonyme de médiocrité. Puis ensuite de ça, on a affronté les Bills de Buffalo. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas de la mer à boire, ces deux clubs-là.
Les Bills et les Browns sont deux équipes pareilles. C'était pas deux mauvaises formations, mais qui manquaient énormément d'expérience, surtout pour affronter une équipe comme les Chiefs.
Ouais, puis aussi, on va en parler un petit peu, mais les Buccaneers n'ont pas eu le début de saison canon, comme on aurait pu penser quand Brady est arrivé. Mais le facteur sagesse de Brady, l'expérience, le talent, tu en as parlé, Tristan, là, quand Brady est dans ton vestiaire, c'est un meneur, tu veux gagner pour lui, puis c'est ça qu'on a vu hier soir. Thomas, parlons, si ça te tente bien, là, on va parler un peu de la jeunesse de Patrick Mahomes. Comment tu réagis à cette défaite-là? C'était quand même eux les favoris.
Ben, honnêtement, je pense que tant que Mahomes va prendre sa retraite dans X nombre d'années, je pense pas qu'on va regarder ce point-là comme ça va être un point décevant, je dirais. Mais je pense pas que ça va marquer sa carrière non plus. On a vu, s'il continue sur cette lancée-là, il risque d'avoir plusieurs autres Super Bowl plusieurs autres participations au Super Bowl dans sa carrière. Donc, une défaite, je pense pas que ça va le marquer non plus. Brady en a perdu combien? 3, si je me trompe pas.
3 sur 10, c'est quand même pas mauvais, là.
La différence, c'est que là, maintenant, dans le débat entre les deux, qui risque d'être un débat qui va suivre Mahomes tout au long de sa carrière, Brady a battu Mahomes à 1 contre 1 à terrain égal au Super Bowl. Ça va jamais s'effacer, par contre.
Oui, ça c'est sûr. Mais quand on regarde ce Super Bowl-là, honnêtement, je pense que ça va servir d'apprentissage pour les Chiefs de Kansas City. Ben oui. Parce qu'on regarde cette formation-là, c'est une jeune formation, bien dirigée, avec Andy Reid, qui, selon moi, est un des meilleurs entraîneurs-chefs dans la Ligue nationale de football. Une carrière incroyable. N'oublions pas qu'il a déjà remporté un Super Bowl en titre d'entraîneur-chef. Il y a participé à 2 autres reprises en tant que coordonnateur à l'attaque, si je ne me trompe pas, avec les Eagles de Philadelphie. À un moment donné, là, en plus de ça, Laurent Duvernay-Tardif va revenir l'an prochain. Donc, déjà là, cette équipe-là a un bon noyau de joueurs. Il faut que simplement que le leadership continue de s'accentuer, continue d'augmenter dans ce vestiaire-là. Et honnêtement, j'y vais d'une comparaison, puis vous allez trouver ça quand même assez surprenant de ma part, parce que, bon, tout le monde connaît mon allégeance dans le football. Mais pour moi, les Chiefs de Kansas City, c'est les prochains Patriots de la Nouvelle-Angleterre.
C'est littéralement eux. Thomas, tu as l'air de vouloir manger ton micro. Tu as l'air impatient. Dis-nous ce que tu veux dire.
Par contre, Johan, tu disais tantôt que Brady a battu Mahomes un contre un à terrain égal. Je ne dirais pas tant à terrain égal parce que je ne sais pas si tu as remarqué à la fin de la première demi, il y a des pénalités. Les pénalités, en fait, des Chiefs, il y en avait. Qui aurait pas
dû. Peu importe, ça fait partie du match. Mm. Ça a toujours fait partie de la game. Tu regardes les histoires, on l'a souvent dit, mettons, est-ce que Cleveland aurait battu Golden State sans les arbitres? Est-ce que Toronto aurait gagné la finale de la NBA sans les arbitres? Le nombre de fois où les arbitres font partie, font...
Les Canadiens avec les Nordiques! Les Canadiens avec les Nordiques en 87!
Les Stars de Dallas ont gagné la Coupe Stanley en 2004 à cause d'un mauvais call de l'arbitre.
En 2000.
En 99, en fait.
Excusez-moi. C'est ça. 2004, c'est le Lightning de Tampa Bay.
2004, c'est Tampa Bay, effectivement. Ouais. Encore une fois, sur un mauvais call de l'arbitrage, d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que ça fait partie du match, là, malheureusement. Mais pour finir là, sur les Chiefs, moi, honnêtement, j'y vais d'une prédiction peut-être un petit peu chaude. Mais je ne serais pas du tout surpris qu'on revoie les Chiefs au Super Bowl dès l'année prochaine.
Probablement, là. Oui, tout à fait. Mm. Bon, messieurs, juste avant qu'on tourne la page. Ah, Thomas, vas-y, je te laisse, puis après ça, on tourne.
Si on a dans la AFC est pas très forte, et beaucoup moins forte que dans la nationale.
Mm-hmm. Oui, définitivement.
C'est sûr que ça va aider.
Là, avant qu'on tourne, pour vrai, j'aimerais vous entendre sur la performance de week-end à la mi-temps. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Johan?
Moi, je suis biaisé par le fait que The Weeknd, c'est pas un de mes artistes préférés. Okay. Personnellement, j'ai pas vraiment apprécié le numéro de Blinding Lights à la fin avec le jeu de lumière et l'utilisation du terrain au complet était sensationnel, par exemple. Et si le spectacle au complet avait été comme ça, pour moi, ça aurait été un des meilleurs, peut-être, de l'histoire. Mm. Mais là, le bout dans la salle de miroir, c'est tout ruiné, là, malheureusement. J'ai pas vraiment aimé.
Mm. Moi, honnêtement, ce spectacle-là, je veux dire, prenons en considération le fait qu'on soit en pandémie, que bon, il n'y ait pas d'artistes à inviter, tout ce contexte-là. C'est sûr que ça n'aide pas The Weeknd. C'est sûr, mais tu sais, je ne me prétends pas pour être Hugo Dumas ou Richard Therrien, là. Mais tu sais, on est en contexte de pandémie, puis c'est sûr que bon, c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, moi, j'ai quand même trouvé ça correct. T'sais, j'ai trouvé ça le fun. C'était divertissant, mais. T'sais, ça rejoindra pas les spectacles dignes de Madonna avec Cirque du Soleil dans le passé. Ça rejoindra pas les Lady Gaga qui montaient du haut du stade puis qui descendaient jusqu'à sur le terrain. T'sais, je veux dire.
C'est pas la même histoire, c'est ça.
C'est pas la même histoire. Puis,
ça a fait la job.
Ça a fait la job.
C'était pas mauvais, mais ça aurait pu être mieux.
Ouais, toi, Thomas, t'en as pensé quoi?
Ben, personnellement, moi, je n'ai pas tant écouté le spectacle même temps. J'étais pas mal sur mon sel pendant ce temps-là. Mais
j'avais trop pris à manger des ailes de poulet, mon Tom.
Par contre, j'ai bien aimé là, The Weeknd. C'est un artiste que j'aime quand même. Puis, j'ai vu qu'il y a un numéro de fermeture à la fin. Ça va être des danseurs sur le terrain.
L'hymne national, c'était très bien aussi, avec les jets puis les feux d'artifice et tout. Là, honnêtement, moi, j'ai aimé cette cérémonie-là. T'sais, on honore les gens de la santé. On l'a fait, puis c'est toutes les équipes qui ont envoyé des gens de la santé de leur ville respective. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je trouve que vraiment, là, ça donne un bel élan pour les États-Unis, vraiment.
Oui, c'est un très beau geste.
C'est un sujet un petit peu pas rapport, mais moi, j'ai regardé ma famille quand pendant ce moment-là, puis ce que je leur ai dit, c'est ce qu'on voit en ce moment, là, genre toute cette, un peu, on se tient ensemble face à la pandémie à travers le sport, c'est exactement pour ça que le monde a besoin que les Olympiques aient lieu cette année.
Et dans le passé, C'est scientifiquement prouvé, politiquement prouvé que le sport est rassembleur. On l'a vu avec le pays de Didier Drogba, la Côte d'Ivoire, lors de leur Coupe du Monde. Didier Drogba a cessé la guerre simplement en jouant une chanson, en gagnant des matchs. On l'a vu avec les Raptors de Toronto il y a quelques années, les Blue Jays de Toronto il y a quelques années également. Je veux dire, le sport est rassembleur et on l'a vu en fin de semaine.
Sur une note un petit peu plus sérieuse, on parle du Super Bowl cette année comme étant un super, pardonnez-moi l'anglicisme, spreader, donc qui va partager le virus parce qu'il y avait quand même 26 000 personnes. Ouais. Tiens, à noter qu'il y avait quand même des cartons avec des célébrités, des personnes qui auraient pu être au match. Un très beau geste, mais est-ce qu'on peut juger que c'est responsable d'inviter 26 000 personnes en temps de pandémie? Honnêtement, je pense pas que c'est le bon choix à faire. C'est les États-Unis. C'est les États-Unis. Qu'est-ce que tu t'attends d'autre? C'est sûr qu'ils vont ouvrir le Super Bowl. Sinon, c'est pas un Super Bowl. Malheureusement, je pense pas que c'était la bonne idée. Puis, juste rapidement, là, vous dire le spectacle. Comme Johan, la fin, c'était bon. Mais j'ai pas compris ce qui s'est passé quand il était dans la petite pièce avec les miroirs partout. Je sais pas. En tout cas, c'est un style particulier.
Exactement.
Sur ça, messieurs, on va passer du côté des chroniques. Et puis, Johan, je pense que tu es mécontent de la destination de Trevor Bauer. Est-ce que je me trompe?
Je sais que Tristan, lui, est très content. Mais il me semble que c'était il y a deux semaines là, qu'on parlait des équipes qui s'achetaient un championnat. Les Dodgers défoncent la taxe de luxe du baseball en ce moment avec la signature de Trevor Bauer. C'est ridicule. C'est absolument ridicule. Mais oui, Trevor Bauer qui, après maintes spéculations là, comme quoi il allait peut-être rejoindre les Mets de New York, s'alignera finalement avec les Dodgers de Los Angeles qui, Trevor Bauer, en fait, c'était pas compliqué. Hein? L'équipe qui allait rejoindre allait se retrouver avec la meilleure rotation du baseball majeur. Que ce soit New York ou Los Angeles, maintenant il est allé rejoindre Los Angeles. Et là, ça vient clore le débat à savoir qui a la meilleure rotation entre les Dodgers et les Padres de San Diego.
Il n'y a même pas de comparaison là.
Il y en avait une avant.
Oui, maintenant, oui, c'est même ça, je suis d'accord.
Maintenant, c'est
oui, Clayton Buehler avec Trevor Bauer. En plus de ça, David Price qui va être de retour l'an prochain. Écoute, là, t'as quatre gros moineaux qui peuvent lancer la balle, puis fort, puis pas à peu près. Là.
David Price est sur son déclin quand même. Oui. Il n'a pas joué la saison dernière.
C'est ça. Il peut jouer quelques bons matchs quand même.
Effectivement. Puis on a Julio Urias qui complète la rotation. Mais ça reste que Los Angeles, maintenant, ce fameux monstre à trois têtes-là là, qui est présent chez les grosses équipes qui gagnent des championnats. Les Nationals en avaient une. Les Astros en avaient une. Maintenant, les Dodgers ont également leur monstre à trois têtes là, avec Kershaw, Buehler et Trevor Bauer.
C'est là qu'on voit combien le baseball dépense tellement d'argent. Là. 85 millions les deux premières années du contrat. C'est incroyable.
Ce qui est assez intéressant de ce contrat-là, le contrat de 3 ans, avec une potentiel de se défaire de son contrat après la deuxième saison, s'il quitte les Dodgers et il opt-out, là, comme disent les Anglais, de son contrat, il sera, là, en termes de moyenne de salaire, le joueur le mieux payé au cours des deux prochaines saisons. Donc, c'est assez exceptionnel. Et c'est pas surprenant non plus dans son cas. C'est pas toutes les années qu'on reçoit qu'un gagnant du Cy Young se retrouve sur le marché des joueurs autonomes.
On parle d'un montant de combien, Johan?
C'est 103 millions.
Exactement. 40 millions sur sa première année, je crois 45.
45 sur la deuxième, 28 sur la troisième.
Exactement.
On avait fait une petite chronique dans le même genre avec Lionel Messi la semaine passée. Qu'est-ce qu'on fait avec un montant astronomique comme ça?
on fait bien des affaires. Allez écouter l'épisode de la semaine dernière, vous allez comprendre.
On demande à Pierre-Yves McSween comment gérer son argent.
Ouais, c'est ça.
Non, super. Merci beaucoup, Johan. Thomas, tu viens nous parler de Manning. Je présume que c'est Peyton Manning que tu viens nous parler, puis tu vas nous parler du Hall of Fame, donc je présume en NFL, c'est bien ça?
Exactement.
Yes.
Samedi, c'était sa soirée de récompense dans la NFL, où est-ce qu'il répétait les trophées. Également, il annonçait qui est-ce qui allait faire la rentrée à Canton. Il y avait bien sûr Peyton Manning qui était sur les rangs. Désolé, je me mêle un peu dans mes notes. Oui, il y avait Peyton Manning. Peyton Manning, on sait, il a une carrière exceptionnelle. on parle de 5 de 5 titres de joueurs du team, 14 Pro Bowl, 2 Super Bowl, non, un titre de joueur du team, 2 Super Bowl, 7 équipes de 7 premières, 7 fois sur la première équipe d'étoiles, 3 fois sur la deuxième équipe d'étoiles. Et il y a également le record du plus de verges par passe à une saison de 5477 en 2013.
Énorme.
Donc, une carrière vraiment exceptionnelle. Oui. Ceux qui vont le rejoindre, on parle de Calvin Johnson, ou ce que nous, sur ce nom de Megatron.
Oui, monsieur!
qui a été receveur des Lions et qu'apparemment, Johan est très content d'avoir au Hall of Fame.
Oui, Megatron fait son entrée au Hall of Fame. C'est la seule raison pour laquelle j'aimais les Lions de Détroit dans le temps.
J'ai besoin d'un petit background. Pourquoi on l'appelle Megatron, là?
À ton avis?
Parce qu'il est massif et qu'il peut se transformer, je sais pas.
Johan, vas-y de tes explications.
Il est gros, il est vite, il frappe fort.
OK, ça fait du sens. Vas-y, continue, Thomas.
Il y a aussi John Lynch, le directeur gérant des 49ers présentement, qui rejoint en tant que joueur, lui qui a été, je sais l'expression en anglais, mais safety pour les Buccaneers et les Broncos.
Oui,
maraudeur, c'est ça, ma petite Tristan. Il a remporté d'ailleurs un Super Bowl avec les Bucs en 2003. On parle de Tom Flores, légendaire entraîneur des Raiders, qui a remporté 2 Super Bowls avec les Raiders. Alan Faneca, un garde des Steelers dans les années 2000. Est-ce que de Drew Pearson, receveur des Cowboys dans les années 70, et Charles Woodson, demi de coin des Raiders et des Packers. Lui, j'aimerais développer un peu là-dessus puisque c'est un joueur dans mon équipe. Mais on parle de recrues défensives années en 98, 9 Pro Bowl, 4 fois sur la première équipe d'étoiles, 2 fois le titre propulsion d'interception, joueur défensif d'année en 2009, 1 Super Bowl. Il y a également le record du plus de touchés défensif dans une carrière. Est-ce que ça fut le premier à avoir 50 interceptions ainsi que 20 sacs dans sa carrière?
Impressionnant. Impressionnant pour un joueur défensif.
Ouais. Impressionnant.
Ça fait combien de joueurs là, qui font leur entrée au Temple de la Renommée cette année?
Je pense que c'est 5 par année d'habitude.
5 ou 6.
Ouais, c'est ça.
Pendant ce temps, au baseball, 0.
0 coup de bord parce que.
on a couvert le sujet la semaine dernière, ouais. Mais c'est juste un parallèle que je trouve intéressant
ouais.
à faire.
Ouais.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y en a d'autres sur ta liste, Thomas?
Non, ça fait le tour. Non, c'est vrai, il y a également Bill Nunn, un éclaireur pour les Steelers pendant plus de 50 ans.
Bon, c'est super. Ben, merci beaucoup, Thomas. Je vais y aller pour celle-là. Je pense que c'en est une qui est excitante. Puis après ça, je vais t'introduire, Tristan, là, pour ta prochaine chronique. Mais celle-là, je la trouve le fun, les gars. On se souvient-tu, il y a une ville au Québec qui a changé de nom récemment? Je pense que c'est...
Tu t'en vas vraiment en parallèle avec ça.
Ben oui. Ben, c'est vraiment la même formule. Parce qu'on se souvient avec Asbestos, ce qui s'est passé, c'est que la ville a reçu plein de noms possibles. Au final, c'est la population qui a voté, mais... Lien boiteux, on y arrive. Eh bien, parlons des anciens Eskimos d'Edmonton. Donc, l'équipe de football d'Edmonton maintenant a sélectionné 7 noms potentiels pour le changement identitaire de l'équipe. On sait que l'organisation a abandonné le nom Eskimos dans la vague de changement identitaire pour éliminer les noms d'équipes racistes et stéréotypées. Donc, ça fut le cas de Washington en NFL, Cleveland en MLB, qui sont toujours, eux, également en quête d'un nouveau nom. Edmonton est présentement dans la deuxième et dernière phase du processus de changement identitaire. Et puis, l'équipe a reçu un total de 15 000 suggestions de noms. Puis, il y en avait seulement 2 000 dans tout ça qui étaient uniques, donc qui n'étaient pas répétés.
Et ça, donc, ça provient de tous tes partisans. Hein?
Oui, exactement. C'est ça la bonne nouvelle.
On n'a pas fait à Montréal.
Ouais, c'est pas la même chose qui s'est passé avec Club de foot Montréal. Ouais,
quand même.
C'était plus
dans un certain sens, tu veux sonder tes partisans pour ce genre de choses-là.
Tu veux les sonder. Fait que bon geste marketing de la part de l'équipe de football d'Edmonton. Fait que les gars, ce qu'on veut savoir, c'est quoi les 7 noms potentiels?
Vas-y, moi, ça
m'intrigue. Vous êtes vraiment enthousiaste, boys, OK?
J'ai pas d'inspiration présentement.
Bon, on y va.
Y a-tu genre les Eagles? Il me semble que j'ai vu la liste tantôt.
Ouais, les Eagles en fait partie. On a les...
l'équipe de football d'Edmonton?
Malheureusement, non. On a Elk, Evergreen, Evergolds, Eclipse, Elkhounds, les Eagles dont Johan a mentionné, et Elements. Donc,
On veut vraiment garder, on regarde ça, là, clairement, on veut garder le logo avec les deux E, là, c'est ça qu'on veut.
Ouais, c'est un bon move. Le logo, il fonctionne quand même bien. Puis la seule chose qui m'inquiète, c'est la recherche derrière les noms. Le seul que je vois, c'est qu'il pourrait avoir un potentiel avec un branding intéressant. Je pense que c'est les Eagles, mais j'aimerais vous entendre là-dessus, messieurs, en commençant par Tristan. As-tu une préférence dans les 7 choix que je t'ai nommés?
Moi, honnêtement, je veux dire, moi, je suis un petit peu périlleux quant au nom des équipes. Là, tu sais, je veux dire, dans les 7 noms que tu m'as nommés, je vois seulement Eagles qui pourrait fonctionner. Par contre, pourquoi prendre un nom qui existe déjà dans la Ligue nationale de football?
Et voilà.
Soyons créatifs. Tu veux aller chercher de la clientèle, tu veux aller chercher tes partisans, va chercher un nom qui va être rassembleur, qui va faire en sorte que tu vas pouvoir partager encore plus ton image de marque. Je veux dire, viens pas me faire à croire qu'ils vont dessiner un aigle sur une des épaules du chandail, là.
Ben, tu vois aussi là-dedans, c'est vraiment les partisans qui décident. Donc, pourquoi avoir choisi un nom de ligue? En tout cas, chose certaine, on voulait garder le logo, comme Johan y disait. Toi, Johan, as-tu une préférence ou tu as le droit de pas en avoir, là?
Les Lions de la Colombie-Britannique et les Lions de Détroit, je veux dire, je lance ça comme
bon
ça.
Point.
Bon point.
Mais écoute, il y a de ces noms-là là, qu'on a entendus aussi. Là, avec Seattle, l'équipe d'expansion dans la LNH, les Evergreens, c'était un nom qui revenait beaucoup aussi. Je ne comprends pas l'intérêt. Je dis, tu sais, d'un certain côté, Eagles comme nom d'équipe de sport, tu le sais que ça marche. C'est connu, c'est répandu, tu le sais que c'est bon. Est-ce que tu veux t'en aller vers quelque chose que tu sais qui va fonctionner? Ou pourquoi pas y aller vers quelque chose de complètement original, complètement différent, essayer quelque chose de nouveau, pourquoi pas? C'est cette question-là là, que les partisans vont devoir se poser. Moi, personnellement, je n'ai pas tant de préférence. Je ne peux pas dire que la Ligue canadienne de football, c'est quelque chose que je suis de très près. Donc, moi, personnellement, ça ne fait aucune différence là, dans mon cas, le nom que Edmonton va prendre.
De toute façon, on n'est pas des gens de l'Alberta non plus, là, donc c'est sûr qu'on n'a pas un aussi gros attachement à ce club-là que si l'équipe était montréalaise, là, ça c'est sûr et certain. Mais quand même, on verra qu'est-ce que ça va donner du côté d'Edmonton. Mais chose certaine, ça va être intéressant de voir quel nom et dans quelle optique ils vont viser cette équipe-là.
Ouais, on en parle à Montréal, on a les Alouettes à la base, donc ça nous concerne moins.
Il y a des noms là-dedans qui ont peut-être un attachement plus particulier avec les gens de la région d'Edmonton. Tu sais, on prend pour exemple le Rocket de Laval. Ben, des gens dans le reste du pays n'ont peut-être pas compris pourquoi le Rocket a été si populaire que ça. Mais à Montréal, on le comprend tout de suite pourquoi. Il y a peut-être un de ces noms-là qui va ressortir pour des raisons similaires.
C'est clairement pour le planétarium, le Rocket.
Exact.
Ben oui, c'est sûr que c'est ça. Bon, pendant que tu es là, Thomas, toi, as-tu une préférence dans ça ou pas du tout?
Ben, personnellement, ça m'indiffère, mais j'aime bien les Elks, les élans. Je trouve que ça fait très, très canadien.
Ça fait canadien, mais c'est juste Edmonton Elk. Je sais pas, moi, c'est la prononciation. Il y a quelque chose qui sonne pas bien, là.
Edmonton Elks. Je sais pas.
Pas bien, mais ça fit.
Ben, ça fit avec la thématique canadienne, c'est ça.
Ça, c'est sûr.
Bon, sur ça, c'est ce qui conclut de mon petit côté avec ce qui se passe en football canadien. On va passer avec Tristan. Tristan, tu fais ta première apparition au podcast, donc bienvenue.
Merci.
Ben écoute, tu viens nous parler de Michael Kingsbury, c'est bien ça?
Oui. Rappelons que Michael Kingsbury, au mois de fin novembre, début décembre, il a subi une grosse blessure, des fractures au niveau de sa vertèbre. Et là, il est revenu en compétition la semaine passée. Tout le monde sait que Michael Kingsbury, c'est le Wayne Gretzky du ski acrobatique boss au niveau mondial. Ouais. On n'a pas besoin de nommer le nombre de globes de cristal qu'il a remporté.
Le c'est nombre le de Tom Brady maintenant.
Oui. Mais, le Tom Brady, le Michael Jordan, en tout cas, le GOAT, comme on aime les dire, là, pour le ski acrobatique boss. Il est revenu à la compétition la semaine passée. Et imaginez-vous, 2 victoires sur le circuit de la Coupe du Monde après s'être blessé, messieurs, au niveau de la colonne vertébrale. C'est pas une petite déchirure à l'orteil que ça se répare en dedans d'une semaine. Là. C'est au niveau de ta colonne. Puis qui dit ce qui passe acrobatique, dit un sport qui est extrêmement athlétique, de un pour les cuisses, pour les genoux, pour la colonne, parce que tu fais des sauts périlleux de 180, de 200, 360, peu importe. Et là, il revient en force. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai regardé les compétitions sur le site de Radio-Canada avec Jean-Luc Brassard à l'analyse et Michel Chabot à la description. Puis honnêtement, j'en avais des frissons pour Michael. Et n'oublions pas la personnalité de Michael Kingsbury, qui est un gars qui est simple, qui est un gars qui est humble et qui veut gagner. Et son implication dans la communauté, messieurs, au début de la saison, il avait dit « À chaque victoire de la Coupe du Monde, je vais donner 500 $ de mes poches pour le club des petits déjeuners. » Et présentement, ça fait 1000 $ qu'il a gagné à son retour au jeu après s'être blessé au niveau de sa colonne vertébrale. Moi, honnêtement, je trouve ça extraordinaire. C'est un modèle pour tout le monde, pour nos jeunes athlètes et québécois et québécoises. Puis, chapeau à Michael.
Mais chapeau à Michael, parce que moi, honnêtement, ça fait presque un an là, que je me fais traiter pour des problèmes de dos, puis j'ai de la misère à m'entraîner minimalement, donc je peux même pas imaginer ce qu'il a traversé. Là. Mais définitivement, un monsieur qui a le cœur sur la main.
Ah, c'est extraordinaire, puis on va se souhaiter d'autres victoires de Michael Kingsbury. Puis n'oublions pas qu'il est déjà le recordman pour le nombre de globes de cristal avec 6 ou 7, si je ne me trompe pas. Et il n'a que 25-26 ans, là, donc c'est extraordinaire cette carrière-là qui ne fait que commencer parce que d'après moi, après les Jeux de Pékin, il va se retrouver pour d'autres Jeux olympiques en 2026.
Ben oui, on lui souhaite de la santé, c'est ce que ça va lui prendre pour traverser ces périodes-là. Merci beaucoup, Tristan.
Merci à vous.
Johan, de retour à toi maintenant, je te redonne le micro. Tu viens nous parler de la Russie qui remporte la Coupe ATP, puis tu viens nous parler d'un peu de tennis, là, dans le fond, c'est bien ça?
Ouais, ben, l'avantage là, que donne la COVID, en fait, si avantage il y a, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de break entre les compétitions de tennis. C'est tout à la même place en ce moment, c'est tout à Melbourne, en Australie. Donc, la Coupe ATP se termine samedi, l'Open d'Australie commence dimanche, pourquoi pas? Et donc, oui, effectivement, la Russie là, qui a remporté la Coupe ATP, la compétition dont je vous avais parlé la semaine dernière, c'était une des bonnes équipes qui alignait là, notamment Daniil Medvedev et Andrei Rublev. Donc, pas vraiment de surprise là, de ce côté-là. Ils affrontaient, écoutez, fouillez-moi comment, ils affrontaient l'Italie. L'Italie a des bons joueurs, mais n'est pas une puissance. Alors, on s'attendait à une victoire de la Russie quand même assez facile. On n'a pas eu besoin de se rendre là, au match de double, les 2-5 qui ont été remportés. Mais ce que ça montre pour l'Italie, par contre, c'est un bon futur. Parce que les joueurs qu'ils alignent, notamment Matteo Berrettini, sont des joueurs quand même assez jeunes. Et l'Italie a également Yannick Sinner aussi.
Sinner aussi, qui est très bon.
Effectivement. Donc, c'est une belle étape pour le tennis italien qui tranquillement, pas vite, là, commence à gagner du terrain sur des gros pays, notamment l'Allemagne là, qu'ils ont été battre. L'Allemagne qui n'est peut-être pas non plus une puissance, mais Alexander Zverev et Jan Lennartstroff, ce ne sont pas des deux pics, on ne va pas se le cacher. Donc voilà, la Russie remporte la Coupe ATP. Et bon, ben, c'est le début là, du premier Grand Chelem tout de suite après, donc depuis hier en fait. Et un point qui est important de souligner, c'est la rentrée des tennismen et tenniswomen canadiens et canadiennes, les 5 premiers à avoir disputé des matchs. Donc, Miloš Raonic, Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime ont remporté leur match de premier tour. Ça a été un peu plus difficile pour Shapovalov qui a été pris dans un marathon de 5-7 face à Yannick Sinner, justement l'Italien dont je vous parlais. Et chez les dames, bien, on avait deux joueuses qui étaient de retour à la compétition après un certain temps, Bianca Andreescu et Rebecca Marino également. Ces deux très bonnes nouvelles là, de voir ces deux joueuses-là revenir à la compétition et l'emporter. On est très content pour ces deux femmes-là. On a également Leila Annie Fernandez qui affronte la Belge Elise Mertens en ce moment même. Donc, ceux qui vont l'écouter là, l'épisode demain sauront le résultat et savoir si on aura une sixième Canadienne qui a réussi à se qualifier pour le deuxième tour. On a également Vacek Pospisil qu'on est dans l'attente de son match de premier tour. Et peut-être une surprise là, rapidement, parce qu'à date, il n'y en a pas vraiment eu. Il faut dire qu'il y a eu une journée de compétition seulement. Mais si on regarde les résultats des autres matchs, à peu près tout le monde qui devait l'emporter dans sa rencontre a réussi à sortir victorieux ou victorieuse de son duel, sauf Gaël Monfils. Oh. Gaël Monfils, qui est français, qui est la 10e tête de série. Écoutez, je ne savais pas que la Finlande avait des joueurs de tennis. Mais je vous annonce que la Finlande a maintenant des joueurs de tennis. Et un de ces joueurs-là s'appelle Émile Rusuviori. Et Rusuviori a battu Gaël Monfils en 5-7. Donc, félicitations pour lui. Comme je vous dis, j'avais aucune idée que la Finlande avait des joueurs professionnels de tennis. Et maintenant, ils sont sur la map, comme on dit.
Et pensons à Rebecca Marino, que c'est un retour tout à fait exceptionnel, messieurs. Ça faisait 8 ans qu'elle n'était pas à la compétition d'un grand chelem et elle a réussi à se tailler une place là, au niveau du tableau principal. Moi, honnêtement, je trouve ça incroyable de sa part.
Oui, tout à fait. Effectivement. Bon, super. Merci beaucoup, Johan. On change avec notre cher Thomas qui nous revient avec un autre sujet. Là, tu viens nous parler de basketball, si je ne me trompe pas, puis tu viens nous parler, en fait, du match des étoiles, c'est ça?
Oui, exactement. La NBA a annoncé récemment qu'elle comptait organiser le match des étoiles, finalement, le 7 mars à Atlanta. Et les joueurs, ils sont pas contents. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, il y a beaucoup de problèmes de COVID dans la NBA. Il y a plusieurs matchs qui ont été remis à cause d'explosion. Il y a également le calendrier qui est très chargé. Surtout que là, on parle d'une saison qui est raccourcie de 72 matchs. Donc, le calendrier est extrêmement chargé et les joueurs espéraient profiter de cette semaine de congé pour se reposer. On parle également aussi, il y a plusieurs joueurs qui pensent que c'est seulement une passe d'argent pour se refaire à cause du manque de fans dû à la COVID. Il y a plusieurs joueurs qui sont contre la présentation du match d'étoiles, dont LeBron James, qui a dit qu'il n'y avait aucune motivation, aucune excitation par rapport au match. Yannis Antetokounmpo qui a dit qu'il préférait se reposer. Même chose du côté de James Harden. Kawhi Leonard a dit que c'était seulement qu'une passe d'argent et qu'il essayait de faire de l'argent au détriment de la santé des joueurs et de la santé publique à cause de la COVID. Donc, on va voir ce qui va se passer. Ça part très mal, sachant que tes meilleurs joueurs ne veulent pas y participer. Donc,
c'est sûr. On les comprend, là. C'est en temps de COVID, je pense pas que ça soit le temps d'organiser.
À quoi ça va servir? À quoi ça va servir?
C'est de la télévision, c'est ce que ça va être, mais en tant que COVID, je veux dire, c'est pas le temps de ramasser tous les joueurs, tous les meilleurs joueurs.
Préserve la santé de tes joueurs, parce que sinon, tu seras pas en mesure de compléter ton calendrier.
Bien, premièrement, puis deuxièmement, la COVID, c'est difficile pour tout le monde. C'est pas le même style d'entraînement dans les pratiques. Les gens sont épuisés. je pense que c'est un geste qui est précipité. Puis honnêtement, je pense pas que ça va être une bonne idée. Reste à savoir s'ils veulent inviter des fans ou non. S'ils invitent des fans, moi, je pense que c'est la pire idée qu'ils pourraient faire. Est-ce qu'on a des informations là-dessus, Thomas, ou pas encore?
Ça n'a pas encore été confirmé pour les fans.
Okay.
Moi, pas ce que j'ai vu.
OK, super. Bon. On va suivre ça de très près, là, parce que c'est quand même préoccupant là, ce qui se passe là-dedans. Parce que si LeBron il part quelque chose, on sait que ça peut aller très, très loin avec la notoriété qu'il y a.
En effet.
Merci beaucoup, Thomas. À mon tour, je reviens encore. Là, on tombe dans une situation un petit peu plus... comment je pourrais dire ça? Triste, dommage. C'est dégueulasse, en fait, là. Bon, le sport, c'est supposé d'être quelque chose de, c'est une compétition premièrement, mais c'est quand même un domaine où il faut que tu respectes tes adversaires, mais que tu respectes encore plus les arbitres. Je veux dire, c'est la moindre des choses. Eh bien, c'est pas ce qui s'est passé parce qu'il y a un arbitre de Premier League anglaise qui a reçu des menaces de mort en raison de cartons rouges controversés. Je vais bien dire controversés entre guillemets parce que la décision de l'arbitre est la décision finale. Donc, si c'est controversé, c'est regarde, ils sont allés à la reprise vidéo. Puis s'ils vont à la reprise vidéo, mais il a revérifié puis tout est beau. Fait que c'est ce que c'est. Donc, c'est l'arbitre Mike Dean qui s'est plaint à la police après que sa famille, pas lui là, sa famille ait reçu des menaces de mort pour les deux cartons rouges que je vous ai parlé. Le premier, ça serait le carton rouge qui est décerné au défenseur de Southampton. Donc, c'est Jan Bednarek lors d'une rencontre à sens unique de 9-0 pour Manchester United. Donc, la plus grande victoire cette saison en Premier League, si je m'avance pas trop. Et puis, il y a eu le carton rouge décerné au milieu de terrain de l'équipe préférée de Johan, West Ham United. Donc, Thomas Soucek contre Fulham.
Ils ont annulé contre Fulham. Come on, il y avait besoin de ces points-là.
Ben oui, mais ils ont eu un carton rouge. C'est sûr que ça va mal, là. Après ça, bon, il y a Mike Riley, dans le fond, lui, c'est le directeur général de Professional Game Match Official Limited. Donc ça, c'est l'organisme qui forme les arbitres et puis qui sélectionne les arbitres responsables des rencontres. Et bien, lui, il soutient que les menaces et les abus de cette nature sont totalement inacceptables et que personne ne devrait être victime d'un message haineux. Puis selon les médias anglais, là, Mike Dean aurait demandé à être dispensé de ses fonctions mercredi. Normalement, il est l'officiel sélectionné pour arbitrer le 5e tour de la FA Cup entre Leicester et Brighton. C'est préoccupant, messieurs.
Honnêtement, pas grand-chose à dire là-dessus.
Ah, regarde, le sport, c'est du divertissement. Ça me fait penser justement avec Loris Karius quand il était dans le match de Ligue des Champions, la finale contre le Real Madrid, ouais. Où ce qu'il a fait des bourdes. Tu fais pas ça.
Mais honnêtement, le rôle de l'arbitre, c'est tellement ingrat. Puis, honnêtement, moi, je trouve que les gens, ils manquent tellement de respect à l'égard de ces êtres humains-là. Je veux dire, ils ne sont pas des robots. Ce sont des êtres humains. Ils essayent de faire de leur mieux. Ce n'est pas toujours évident. Puis...
Mais les arbitres, c'est eux qui gardent le sport en vie parce que c'est eux qui s'assurent que les règles soient respectées. L'intégrité du jeu.
Les arbitres, les officiels mineurs, les annonceurs, c'est eux qui gardent le sport vivant. Là.
Sans les arbitres, il n'y a pas de sport.
C'est, ben voilà.
C'est exactement.
Simple comme ça. Puis, je veux dire, on a tous été des athlètes à un moment donné dans notre vie. On a tous déjà fait du sport et on a tous déjà été flus après les arbitres. Mais on est quand même capable de reconnaître l'importance qu'ils ont pour le sport.
Ben, c'est ça, Pierre. Juste rapidement en terminant, il y a quand même un degré à être fru contre l'arbitre parce qu'on a le droit d'être fâché contre sa décision. Mais tu ne vas pas lui en vouloir à mort.
Exactement. Exactement.
C'est inacceptable. Oui. Donc, sur ce, on va passer à Tristan maintenant.
Juste avant,
oui, bien sûr.
Pierre-Luc, pendant que tu parles rapidement oui. de la Premier League, je sais qu'Étienne est vraiment, vraiment pas content parce qu'il considère que j'ai jinxé le sort des Canadiens de Montréal dans leur premier match contre les Sénateurs d'Ottawa. Donc, je vais essayer de réutiliser ma magie du jinxage.
Ben oui,
et
on aime
dire
ça.
Que. Manchester United affronte West Ham demain au cinquième tour de la FA Cup et dire que ben, ça pourrait sembler comme étant une victoire facile pour Manchester United, mais on rappelle qu'ils ont perdu contre Sheffield United, oui. Et donc la victoire n'est pas garantie.
pas garanti. Puis il y a peut-être un certain Jesse Lingard qui va venir et hanter voilà. son ancienne équipe. Honnêtement, je la vois venir de très loin. Donc, Étienne, attache ta tuque avec la brosse. Avec la brosse, parce que ça va brasser.
Lingard va faire triper.
Oh, bon, là, ça commence. C'est un petit peu osé pour Lingard, mais écoute, on te croit. Maintenant, Tristan, tu vas nous parler de la COVID chez les Tigresses. Est-ce que tu parles des Tigresses au soccer?
Non, je parle des Tigres de Victoriaville dans la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec. Honnêtement, ça va pas bien du côté des Tigres.
Hey, on peut dire.
Les Tigresses.
Ah, tabarouette. Bon, OK, revenons au sérieux. La bulle qui a complètement éclaté du côté des Tigres de Victoriaville. L'équipe de Karl Mallette était du côté de Chicoutimi pour disputer des matchs contre les Saguenayens. Et 4 cas positifs de COVID-19 au sein de la formation des Tigres. Donc, on a dû se mettre en quarantaine. On l'est encore du côté des Tigres. On est en quarantaine du côté de Chicoutimi, là, dans une chambre d'hôtel. On reçoit la nourriture à la chambre. On ne fait que s'entraîner dans la chambre d'hôtel. On ne peut s'entraîner dans le gymnase de l'hôtel. On ne sait pas quand est-ce qu'aura lieu le prochain match du côté des Tigres. Ça va être compliqué là, pour les Tigres de Victoriaville. Puis, c'est pas beau. C'est pas beau ce qui se passe présentement. Il y a certains cas là, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec là, qui vont être à surveiller au niveau des bulles puis au niveau des cas de COVID. Là. Mais du côté des Tigres, là, c'est majeur parce que autour des 20 février, on avait prévu une bulle. Cette bulle-là a été annulée. Donc, c'est à suivre.
La situation dans la LHGMQ au complet là, est assez difficile là, avec la COVID. Le hockey au complet, là, je te dirais, est quand même assez touché.
Oui. La Ligue nationale qui a annoncé des matchs reportés pour Buffalo, pour les Devils du New Jersey. Donc,
équipes qui ont vu leur début de saison décalé aussi. Là, puis dans la Ligue américaine, la saison n'est même pas commencée. Puis il y a des équipes qui doivent se mettre en quarantaine déjà. Oui. Ça ne va pas bien pour le hockey ces temps-ci.
Non, absolument pas.
Non, mais c'est ça un peu partout pour le monde du sport. Puis honnêtement, regarde, on va revenir au cas du match des étoiles en NBA. C'est exactement pour ça que tu ne veux pas le faire, parce que chacun de tes joueurs va retourner dans sa ville, dans sa bulle. Puis là, tu fais bien ça, ta bulle au complet.
Dans sa bulle. Puis là, la femme qui s'en va faire l'épicerie va peut-être ramener le virus à la maison, les enfants à l'école. Puis c'est. Puis à un moment donné, là, ça fait beaucoup de gens là, que ces gens-là voient. Là,
ben oui, on a besoin de sport, nous, en tant qu'être humain, pour nous divertir en ce moment. Mais regarde, la COVID, là, c'est pas...
C'est pas évident. On l'a vu au Australian Open dès le départ. Là, fait que c'est vraiment pas évident.
Non, pas du tout. Merci beaucoup, Tristan. On passe maintenant à Johan qui vient nous parler de son joueur de football préféré, je crois bien. Hein, c'est bien ça, notre très cher MVP de la NFL, Aaron Rodgers.
C'est pas mon joueur préféré, mais c'est le corps arrière de mon équipe préférée, par contre. Et si on peut avoir un prix de consolation là, en tant que partisan des Packers, c'est qu'Aaron Rodgers a été nommé là, de façon très correcte, là, il méritait absolument, nommé le joueur par excellence là, de la dernière saison dans la NFL. Là où je veux vous amener, et ça c'est une réflexion assez intéressante à faire, pour parler un petit peu de l'héritage là, de Aaron Rodgers, ce qui va s'en venir, là, la suite, comment on va pouvoir se rappeler de lui. C'est le troisième titre de joueur par excellence qu'Aaron Rodgers remporte dans les 10 dernières années. Il est le seul dans la NFL à l'avoir fait dans les 10 dernières années. Et depuis 2010, au niveau des sports d'équipe, toutes ligues confondues, il y a seulement 3 athlètes qui ont été en mesure de faire ça, de remporter le titre de joueur par excellence de leur ligue respective 3 fois. Mike Trout dans la MLB, LeBron James dans la NBA et Cristiano Ronaldo dans le soccer européen. Ce sont 3 joueurs qui sont dans la discussion comme étant le plus grand de tous les temps de leur discipline. Et Aaron Rodgers est au même niveau que ces 3-là en termes de titre de joueur par excellence. C'est assez spectaculaire, on ne se le cachera pas. Et on a beau parler de Tom Brady, qui peut-être cache la carrière qu'Aaron Rodgers est en train de connaître avec ses setbacks du Super Bowl, mais il ne faut pas l'oublier que si Tom Brady est le meilleur, Aaron Rodgers sera peut-être le meilleur deuxième dans l'histoire du football.
Ça, je suis d'accord avec toi, Johan.
Ouais, c'est ça. T'sais, Aaron Rodgers, c'est le fun de jouer contre Tom Brady, tout ça, mais tu le sais qu'il est meilleur que toi, veux pas. Puis c'est rien contre Aaron Rodgers. C'est quand même un joueur d'excellence. Et puis bon, c'est dommage de voir une si belle carrière cachée. Pas cachée volontairement, mais qui passe sous le radar à cause d'un certain Tom Brady. Donc, malheureusement, ça fait partie de la game.
Tom Brady lui-même, en saison régulière, surtout cette année, ça n'a jamais été le carrière le plus incroyable. Il a déjà été, il a eu des très bonnes saisons, mais c'est en séries éliminatoires. Vous allez me dire, c'est quand ça compte qui devient important, avec raison. Reste qu'Aaron Rodgers a souvent permis à son équipe de se rendre jusqu'aux séries par lui-même. Tom Brady a fait gagner son équipe, certes, et c'est pour ça qu'il est meilleur. Mais Aaron Rodgers a eu une meilleure carrière en saison régulière que Tom Brady, et ça, il n'y a jamais personne qui va pouvoir lui en dire.
Rodgers a 4 défaites dans le championnat de la NFC. Dans la NFC dans les 10 dernières années. Si, mettons, il en gagne 2-3, peut-être 1-2 Super Bowl supplémentaires, on pourrait peut-être se mettre en discussion pour le meilleur de tous les temps, du moins le meilleur de la décennie.
Mais
c'est certain, dans l'ère moderne du football, là, on s'entend que les trois meilleurs, Brady, Rodgers, Drew Brees.
Ouais, t'as Aaron Rodgers.
Dans ce groupe-là. Ben, dans
c'est exactement comme je l'ai mentionné, là, je pense que dans le premier de retour en force. Moi, quand j'ai commencé à suivre le football et depuis que je le suis, ce sont ces trois-là qui dominent année après année. Oui. Il y a eu Peyton, mais il était en fin de carrière à ce moment-là. Puis c'est Breeze, Rodgers et Brady qui ont vraiment continué. Là, c'est la retraite pour Breeze. Je pense honnêtement que Brady, il y en a peut-être juste une ou deux dans le corps encore. Rodgers, peut-être la même chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit la nouvelle génération de corps arrière.
Charlène et compagnie,
place avec Josh Allen, Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Baker Mayfield. Ce sont tous ces gars-là qui prennent la relève. Mm. On oublie Ben Roethlisberger aussi, qui a connu quand même une belle carrière également.
Drew Brees, c'est confirmé qu'il prend sa retraite?
C'est pas encore confirmé, mais c'est un secret de polichinelle tant qu'à moi.
Bon, parfait. J'ai un petit lag là-dessus. Donc, on termine sur ces douces paroles. Puis là, ensuite, on se dirige. On a encore le temps. On a encore quelques minutes, messieurs. Je vais y aller rapidement avec Lewis Hamilton qui signe un contrat de 1 an chez Mercedes. Donc, il poursuit là-bas, là où il a été le roi de la F1 pendant qu'il était là. Et puis, on se souvient, là, il y a quelques mois, son avenir est incertain. On ne savait pas s'il allait prendre sa retraite. Puis finalement, mais c'est une bonne nouvelle. En réalité, on s'en doutait qu'il allait revenir parce que quand tu es à égalité avec Michael Schumacher en termes de titre de champion du monde, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu prolonges ta carrière, tu t'en vas chercher ce titre-là. Puis tu t'assures de devenir le meilleur pilote de toute l'histoire de la Formule 1. C'est même pas une question. Puis tu sais, on regarde ça et puis Hamilton, il est avec Mercedes depuis 2013 et puis depuis qu'il est avec Mercedes, ça a été 6 titres de champion du monde, ce qui est quand même absolument incroyable. Puis ça démontre à quel point Mercedes est juste dans un autre jeu à part entière de toutes les autres écuries. Il y en a beaucoup à faire encore.
C'est incroyable.
Ben c'est ça. Puis tu sais que déjà qu'on classe Hamilton avec Schumacher pour le meilleur pilote, c'est quand même grand. Puis là, on le voit encore aller en piste cette année. C'est absolument incroyable. Il y a quelque chose qu'on retient quand même de cette entente-là parce que oui, il va signer quand même pour une année supplémentaire, mais il y a quand même une chose qu'Hamilton a voulu faire, puis c'est une entente qu'il a fait avec Mercedes pour la création d'une fondation caritative dans le but de soutenir une plus grande diversité et une plus grande inclusion sous toutes ses formes dans le sport automobile. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on sait que Lewis Hamilton était un athlète et une personnalité très engagée durant le mouvement Black Lives Matter l'été dernier. Donc, c'est une excellente nouvelle.
Ils ont mis Osaka, là, les deux ont été incroyables dans ce mouvement-là.
Ben oui, tout à fait. Puis là, Lewis Hamilton, ben il va essayer de mettre la main sur son 8e championnat. Honnêtement, ça serait absolument incroyable parce que, messieurs, on va vraiment vivre, on va avoir vécu pendant que le meilleur pilote de tous les temps est là. Je suis abasourdi par le talent qu'il a, cet homme-là. C'est absolument incroyable. Puis, bonne nouvelle, la saison, ben, elle va débuter dans quelques temps quand même. Ça arrive rapidement parce que février, hein, c'est 28 jours seulement. Oui. Et bien, la saison débute le 28 mars prochain. Donc, ça va être au Grand Prix de Bahreïn. Donc, c'est une excellente nouvelle. Je me souviens, je grandissais avec... j'écoutais la Formule 1 avec mon père. Donc, c'était toujours un plaisir. Rapidement, Thomas...
On en parlait un petit peu. Oui. On en a parlé là, il y a une couple de semaines dans le podcast du Club École originel où on avait ce débat-là. Et moi, personnellement, je serais prêt à dire que Lewis Hamilton est déjà le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1. Moi, tant qu'à moi, qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, il est devant Michael Schumacher et il va gagner. Puis on en parlait avant le début du podcast. Ce contrat d'un an-là est probablement pour aller chercher ce huitième titre-là. Prendre sa retraite à la fin de la saison. On sait qu'il y a des gros changements qui s'en viennent en Formule 1 l'année prochaine. Et lui, ben, est-ce qu'il va vouloir faire partie de tout ça?
Il y a déjà Valtteri Bottas en arrière qui va prendre la relève. Là, donc,
Exactement. Et George Russell aussi qui va constituer une excellente option là, à 23 ans l'année prochaine pour être le deuxième pilote de Mercedes. C'est aucune inquiétude pour la continuité.
Ben, on sait. Puis regarde, Lewis Hamilton, il y a déjà plus de victoires de courses que Michael Schumacher. Donc, en théorie, il est déjà le plus grand pilote de tous les temps. Mais un huitième titre, ben, ça viendrait juste ajouter à sa légende parce qu'il est absolument incroyable. Puis, on a le temps d'une petite dernière, je pense, avec Thomas qui vient nous parler quand même des fameux coups à la tête là, qu'on a vus chez le Canadien de Montréal. Là, c'est quand même des situations préoccupantes. Puis, toujours pas de sanctions de ce côté-là. C'est quand même inquiétant. Thomas, à toi la parole.
Ben, exactement. Dans une dernière semaine, le Canadien... En fait, les joueurs du Canadien ont subi plusieurs coups à la tête.
Pas juste le Canadien non plus. On l'a vu cette semaine, Radko Gudas, encore une fois, ce cochon-là qui donne un coup à la tête du joueur, je pense, des Capitals ou quelqu'un comme ça. Là. Fait que...
Non, moi, c'est ce qui me dérange le plus dans cette histoire-là. C'est sûr qu'il y a et qu'ils disent que la Ligue nationale cible le Canadien et qu'on essaie de mettre des bâtons dans les roues des équipes canadiennes, puis qu'on est contre le Canadien de Montréal. Non. Regarde autre chose que les matchs à RDS, et tu vas voir que ça se passe à travers la Ligue.
Thomas, vas-y.
Oui, donc, dans les dernières semaines, surtout avec les Canadiens, on a vu le coup de Meyer sur Armia, le coup de Dylan Dubé sur Kotkaniemi. Là, en fin de semaine, on a vu le coup de Goodbranson sur Jake Evans.
Puis on a vu le coup de Ben Chiarot aussi.
Exactement. Donc, ce qui m'amène, là, on a parlé aussi dans la reprise vidéo cette semaine. Est-ce que les retours des coups à la tête et le fait qu'il n'y a pas de sanction, est-ce que ça envoie un message aux joueurs comme quoi que la limite n'est pas encore franchie et qu'ils peuvent se permettre d'y aller du côté des coups à la tête.
T'sais, le problème, c'est que dans le livre des règlements de la Ligue nationale de hockey, dans les articles 48, 48.1, 0.2 et 0.3, si je ne me trompe pas, on ne sanctionne zéro pinball les coups à la tête. Ça, honnêtement, je trouve ça complètement stupide. De deux, la Ligue nationale dit vouloir protéger ses joueurs. Mais tabarouette, les coups à la tête, messieurs, je veux dire, si on sanctionnait plutôt Tyler Myers sur le coup contre Joel Armia, clairement, il n'y a pas de combat le lendemain entre Joel Edmondson et Tyler Myers. Je veux dire, à un moment donné, il y a un non-sens dans la Ligue nationale de hockey à ce niveau-là. On dit vouloir protéger les joueurs, mais on ne met aucun règlement pour sanctionner les coups à la tête. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Recours collectif des anciens joueurs qui se rassemblent ensemble pour dire à Gary Bettman, « Monsieur Bettman, donnez-nous des traitements correctement pour soigner nos cerveaux, parce que on ne va pas bien à cause de ça. » Puis ça fait des années. Ça date des Broad Street Bullies puis des Big Bad Bruins. Ça date de toute cette époque-là. Ça date de l'époque où est-ce que l'Avalanche du Colorado affrontait les Red Wings de Détroit année après année en séries éliminatoires. Après ça, c'est aujourd'hui dans l'ère moderne du hockey. Honnêtement, messieurs, là, comment ça se fait que les coups à la tête ne sont pas sanctionnés dans la Ligue nationale? Est-ce que c'est parce que Batman veut des maudits combats pour les cotes d'écoute, pour le spectacle, pour l'argent? Je ne sais pas, mais aller du côté de Philadelphie, aller du côté de Boston, tabarouette, ils montrent encore des combats sur le Jumbotron à l'avant-match.
T'as soulevé le problème. La Ligue nationale veut protéger ses joueurs, mais ne se donne pas les moyens de le faire. Il est là le problème.
Il est là le problème. Puis honnêtement, il y en a des règlements. Ils ne sont pas appliqués. Ce qu'il faut que la Ligue fasse, puis on va terminer là-dessus, les gars, c'est de resserrer la vis. Mais ce n'est pas de juste dire « Ah, on va faire là, on va sanctionner pour vrai. » C'est non, 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 non. Tu donnes un coup à la tête, on s'en va checker.
Automatique.
Ben oui. Puis à la limite… Suspension automatique. Puis, n'aie pas peur d'en rajouter des matchs parce que tu ne veux pas que ça se produise. C'est le genre de situation qui est premièrement très dangereuse. Puis, tu ne veux pas que tes joueurs se ramassent tous commotionnés après leur carrière. C'est ridicule.
Puis,
là,
pas juste ça. On devrait déjà dire à la base, un coup à la tête, bye. Tu ne termines pas le match. On y va d'une suspension. On sévit. Mais chose certaine, c'est au niveau des règlements, messieurs, il n'y a aucun règlement dans la Ligue nationale, au niveau des articles 48 du livre de règlement qui sanctionne les coups à la tête, et on ne sanctionne même pas les coups à l'aveugle. Joel Armia n'a jamais pu se protéger. Jesperi Kotkaniemi, c'est la même chose. Et c'est la même chose pour le troisième coup contre le Canadien de Montréal. Et je ne dis pas ça pour défendre le Canadien de Montréal, je dis ça à travers la Ligue nationale parce que clairement, Ben Chiarot, le coup qu'il a donné contre les Sénateurs d'Ottawa, ça aussi, ça méritait une sanction supplémentaire.
Oui, 100%. Sur ces paroles, messieurs, on va arrêter l'épisode ici. Donc, pour vous qui nous écoutez à la maison, un gros merci de nous avoir écoutés pendant presque un peu plus d'une heure quand même. Vous êtes très aimables. Sur ces douces paroles, je dis au revoir. Mon Dieu, on dirait que j'ai perdu comment faire des intros à la fin.
N'oubliez pas de vous abonner à notre Patreon si jamais vous voulez nous voir là, en direct et pouvoir interagir avec nous là, un petit peu comme le modèle de sur-réception. Et nouveau podcast aussi qui va prendre ce modèle-là également. On ne vous dit pas lequel, mais ça s'en vient dans les prochaines semaines. Puis sinon, ben, vous aurez remarqué qu'on a des nouveaux podcasts qui sortent de semaine en semaine. N'hésitez pas à aller regarder tout ce contenu-là. Ligne de mêlée, c'est nouveau. Reprise vidéo, c'est nouveau. Et Banquet à deux, nouveauté de cette semaine également. Vous ne voulez pas manquer ça.
Vous ne voulez pas manquer ça parce que j'ai entendu dire qu'il y avait une certaine députée libérale qui était là-dedans, qui vient parler de basketball. Oh. Donc, c'est sûr que vous ne voulez pas manquer ça. Une certaine Marois Risky. Eh oui. Belle conversation. Sur ce, Johan, je te dis au revoir.
À la prochaine, mon cher.
Ben, merci à toi d'avoir été là. Thomas, au revoir. Merci d'avoir été là.
Ciao, à la prochaine.
Puis Tristan Mac, ben, bienvenue au podcast de Retour en force. Merci d'avoir été avec nous ce soir.
Merci, bon match. Oh non, c'est vrai, le Canadien ne joue que mercredi contre les Maple Leafs.
Et voilà.
Un match qu'on va écouter. Donc, c'était Pierre-Luc Mongeon. Donc, je vous salue encore une fois. Et puis, on se retrouve sur le site web du Club École. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et on se dit à la prochaine. Ciao!